Une petite chose, c'est que normalement, nous aurions dû traiter ce qui concernait la passion du Christ aujourd'hui. Et on s'est dit que finalement, ça ne coïncidait pas tellement avec le temps de l'Avent, et que donc, c'était bien de le garder pour lorsque nous serions en temps de carême, hein, pour la récollection. Et donc, on a trouvé que c'était bien de passer à « Je crois en l'Esprit Saint », parce que la Vierge, hein, était enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint, hein, et que c'est important pour nous de le voir un peu rapidement, hein, après la figure du Père, du Fils, mais d'arriver rapidement à l'Esprit Saint avant de retourner sur le Christ.
Et puis en plus, en complément, on n'a pas fait exprès, mais il se trouve que l'évangile de la messe de ce dimanche, demain, mais qui commence déjà ce soir, avec les premières vêpres, hein, la veille au soir, eh bien l'évangile, ce sera l'évangile de l'Annonciation. Et à l'Annonciation, il est bien parlé justement de l'Esprit Saint, hein, puisque c'est lui qui féconde le sein de la Vierge Marie. Et ceci, d'ailleurs, nous le disons toujours dans le Credo, hein. Alors, vous savez qu'il y a toujours deux credos. Il y a le credo de Nicée-Constantinople, et puis il y a le credo symbole des apôtres, qui est un peu plus court. Et donc, dans le plus court, il est simplement dit, en parlant de Jésus, conçu de l'Esprit Saint. Et puis, dans celui qui est plus long, il est dit, par l'Esprit Saint, en parlant de Jésus toujours, il a pris chair de la Vierge Marie. Et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Donc, la figure de l'Esprit Saint, il se trouve qu'elle coïncide très bien avec ce quatrième dimanche de l'Avent dans lequel nous entrons ce soir. Alors, l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein, c'est peut-être évident, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. C'est une personne divine, donc. Il est l'amour du Père, hein, l'esprit d'amour. Il est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Et il y a toujours cette circulation extrêmement grande, voilà, comme une danse, voyez, d'amour, de joie, à l'intérieur de la Trinité, où chacun se donne l'un à l'autre, puisque aimer l'autre, c'est toujours se donner à lui. Et donc, l'Esprit Saint, il est encore aussi, pour utiliser une autre image, comme la présence agissante de Dieu. Ça, c'est dans le rapport au monde, pour nous. La présence agissante de Dieu dans le monde, dans nos cœurs. Et l'Esprit Saint, il nous procure sept dons. C'est la tradition de l'Église, qui s'appuie essentiellement sur le livre d'Isaïe et qui va dédoubler, hein, le sixième don. On va y revenir. Vous voyez, sept dons qui sont nécessaires. Pourquoi? Pour acquérir, vous voyez, le discernement. Le discernement, le gros mot, vous voyez, il est lâché. Le discernement qui est le propre des chrétiens par rapport à ceux qui ne le sont pas. Le chrétien a ceci de spécifique qu'il reçoit, voilà, il est habité par Dieu et par l'Esprit de Dieu qui lui donne la capacité de discerner. Discerner quoi? Discerner entre le bien et le mal. Discerner entre deux biens, quel est le plus grand bien? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Ça, c'est caractéristique du chrétien. Les personnes qui ne vivent pas avec Dieu, il leur manque encore plus qu'à nous, parce que nous, on n'a pas fini de progresser. On n'est pas propriétaire de l'Esprit Saint, hein? C'est pas magique tout ça. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, eh bien, il leur manque d'autant plus, vous voyez, cette capacité à discerner. Et toutes les erreurs et les fautes, voilà, assez graves et grandes dans le monde, elles sont liées à cette difficulté à discerner. Mais encore une fois, ne nous enorgueillissons pas de l'Esprit Saint que nous avons ou que nous allons recevoir pour les catéchumènes qui vont être bientôt baptisés.
Et juste une petite chose, c'est que l'Esprit Saint nous donne le discernement, mais le discernement est toujours en opposition avec l'esprit du monde. Hein, et donc, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à accueillir. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui finalement croient au nom de la charité qu'il faut penser comme tout le monde. Hein. Alors que, justement, l'Esprit Saint nous invite à annoncer une manière de voir, une manière de concevoir sa vie, et toute une, tout un mode de vie qui est complètement différent de ce que le monde pense. C'est-à-dire que là où le monde va voir quelque chose de mauvais, eh bien l'Esprit Saint nous fera discerner quelque chose de bon, hein, et vice-versa. Donc, vous voyez, donc, c'est un don qui nous est donné, mais qui n'est pas toujours facile à accueillir, parce qu'il ne nous rend pas forcément, il ne nous fait pas aimer tout le monde. Hein. Et ça, c'est important à savoir, parce que si on choisit Dieu, hein, eh bien forcément, on sait qu'il y a des personnes qui nous repousseront. Hein. Et puis, il suffit de voir la manière dont ils ont traité Jésus-Christ, hein, pour savoir que ben, si on est avec l'Esprit Saint, on n'est pas très aimé. Alors, je ne pense pas que nous mourions crucifiés, loin de là, mais tous ces petits refus qui nous sont faits de nous-mêmes en nous disant « mais tu penses de travers, tu es fou de penser comme ça hein », eh bien, c'est important de demander, l'Esprit Saint nous donne la force aussi de pouvoir accueillir ces souffrances qui nous viennent. Mais c'est aussi notre mission de pouvoir dire les choses, parce que si les chrétiens qui sont dans le monde ne disent pas ce qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint, ils ne sont pas fidèles à leur mission.
Sept dons, et alors comment on pourrait qualifier ces dons? Et c'est quoi un don de l'Esprit Saint? La caractéristique commune à tous ces dons, c'est quoi? Ce sont des dispositions permanentes, et des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile, et obéissant, docile, à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Et des dispositions permanentes et qui donne à l'homme qui rendent l'homme docile, voyez, accueillant, obéissant. Hein, la docilité, c'est bien ça. C'est beaucoup l'image de l'obéissance. Lâchons le mot aussi. Et je dis lâchons le mot parce qu'on sait que l'obéissance, c'est une chose contre laquelle nous luttons. Et l'ennemi, en tout cas, de Dieu, en nous, vient nous tenter pour nous conduire à désobéir. Vous voyez ? Et nous fait croire que l'obéissance à Dieu serait un chemin de malheur pour nous, qui nous priverait de liberté. Et donc, il nous faut toujours lutter pour obéir à Dieu. Ce n'est pas facile, ça n'est jamais facile d'obéir à Dieu. Quand on croit que c'est facile, alors c'est que sans doute on a pris un chemin de traverse déjà, et qu'on s'est déjà fait avoir par l'ennemi. Alors, on va lister...
En fait, il s'agit de passer de l'obéissance au monde à l'obéissance à Dieu. Hein, parce que le monde veut nous façonner, et aujourd'hui c'est très très fort à tout point de vue, hein, le monde veut nous façonner d'une certaine manière, hein, et bien nous avons à choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'au monde. Donc de passer d'une forme d'obéissance à quelque chose de mauvais, à une obéissance qui est bonne, mais qui nous donne la véritable liberté. Parce que la véritable liberté, c'est d'accomplir ce pour quoi nous sommes faits. Or nous sommes faits pour Dieu. Elles sont jolies, ces cloches.
Oui, très Alors, on va lister tout simplement ces sept dons en leur donnant une courte définition. Hein, on ne va pas s'étendre dessus très longtemps. On va les dire à tour de rôle. Je vais commencer par le premier don, la crainte du Seigneur.
Alors, juste une petite chose. Dans Isaïe, les dons sont à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du plus grand pour arriver au plus petit. Hein, et maintenant, dans l'Église, on a tendance à les inverser, hein, c'est-à-dire de partir par les premiers dons qui sont nécessaires et qui vont, c'est comme un crescendo. Hein. Donc, si vous allez voir Isaïe, parce que j'espère que vous irez voir Isaïe chapitre 11, vous verrez que l'ordre ne correspond pas. Mais c'est une question de progression. Et c'est important de voir que l'esprit de crainte va nous conduire à la piété, qui va nous conduire à la science, etc., etc.
Donc, le premier don, la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que c'est la crainte du Seigneur? Ça n'a rien à voir avec la peur et le fait d'être effrayé. Et c'est pour ça que le mot est distinct. Vous voyez, on ne parle pas de peur, mais on parle de crainte. La crainte est un double sens. Ça peut représenter la peur, parfois. Mais là, ici, quand c'est accompagné par « du Seigneur », quand il y a un complément, « crainte du Seigneur », ça dit tout autre chose. Et ça dit quoi? Ça dit et la reconnaissance du sens de la grandeur de Dieu, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, avoir le sens intérieurement, vous voyez, de cette grandeur de Dieu, créateur. Il a tout créé à partir de rien. Et chacun de nous, et toute chose dans l'univers, toute chose, Comment ne pas être émerveillé, voyez, et on a, oui, on a dans une admiration face à lui, face à la grandeur de Dieu. Et ça nous conduit aussi à la peur d'offenser Dieu. Oui, la crainte, plus exactement, la crainte d'offenser Dieu. Il est tellement grand, il est tellement bon, parce que tout ça, il le fait par amour, que nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est la crainte de blesser Dieu par nos refus, par nos péchés. Hein ? Donc la crainte de Dieu, c'est un don qui va nous conduire à avoir une sainte horreur du péché, toujours plus, du mal, à rejeter toujours plus le mal, pour le dire encore autrement. Et puis, vous voyez, donc veiller, oui, à ne pas pécher, le dit, à laisser Dieu à la première place, du coup, parce que c'est ça. On ne peut pas lutter contre le péché autrement qu'en choisissant le bien. Sinon, si on le fait à la force du poignet, ça ne tient jamais longtemps. On se casse la figure très rapidement. Et cela aussi consiste, vous voyez, la crainte de Dieu, à ne pas laisser étouffer, à ne pas nous laisser étouffer, à laisser étouffer notre cœur, voyez, par tout ce qui n'est pas Dieu. Hein. Et donc, il y a cette conscience que nous avons de tout ce qui n'est pas Dieu, de le reconnaître dans notre vie, et d'avoir cette vigilance, voyez, de ne pas nous laisser étouffer par cela. Voilà. Donc ça nous conduit aussi à deux vertus, ça fait appel à deux vertus, l'humilité, hein, par rapport à notre péché, et puis l'émerveillement, hein, l'émerveillement, l'admiration devant Dieu, l'esprit d'enfance, hein, la reconnaissance de la grandeur, de la bonté, de l'amour de Dieu. Voilà.
Je te laisse la parole. Alors le don de piété, hein, qui est amené par le don de crainte du Seigneur. Alors la piété, nous avons souvent une image un peu déformée de la piété. Avoir une piété véritable, c'est pas passer toute la journée dans une église en train de réciter son chapelet non-stop. Hein. Le don de piété est lié aussi à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si je prie toute la journée et que je fais ma volonté partout, vous voyez bien que ça ne va pas, c'est pas un véritable don de piété. Hein. Le don de piété nous conduit à n'adorer que Dieu. Alors, on peut se dire, c'est facile de dire « je n'adore que Dieu ». Mais essayons de voir, est-ce que je ne peux pas avoir un certain nombre d'idoles qui peuvent être moi-même, qui peuvent être des amis ou des amoureux ou des amoureuses ou je sais pas quoi, qui peuvent être un bien-être, on peut être très, très idolâtre de son bien-être. Hein? Et donc, je crois que c'est important justement de demander à l'Esprit-Saint d'éclairer nos idoles. Nous en avons tous. Et on peut faire aussi une idole de la religion. Hein? C'est tout à fait possible de se faire une idole de la religion et de se regarder se sanctifier. Ce qu'on croit, vous voyez, il y a des personnes qui se croient très saintes, très machin, très truc, très bien. Bon. Et ça, vous voyez, c'est important ça rentre dans le don de piété. Hein? Alors, c'est aussi prier avec le cœur, parce qu'on peut prier beaucoup à l'extérieur, mais si ça ne change pas notre cœur, prier avec le cœur, ça veut dire laisser son cœur être transformé par la prière. Vous voyez ? Parce que nous avons un cœur qui est toujours attiré par tout le bien-être, la facilité, le confort, les affections et tout le bazar. Et donc, hein, ce qui est important pour nous, c'est que en priant avec le cœur, que notre cœur nous conduise à désirer seulement faire la volonté de Dieu. Désirer Dieu. Je veux voir Dieu, hein, dit Saint Eugène de l'Enfant Jésus, c'est ça ? Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, voilà. Hein. Et la piété nous permet de voir que... Alors, vous savez ce que c'est qu'un joug ? C'est une pièce de bois qui unifie deux bœufs qui vont travailler. Alors maintenant, c'est vrai qu'on voit plus beaucoup ça. Hein. Alors les jeunes, vous avez jamais dû connaître ça. Bon. Bon, voilà. Donc, mais le joug de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut marcher avec le Christ, il faut marcher avec l'Esprit Saint, il faut marcher avec la Trinité. Hein. Et ce joug, eh bien, il est léger et suave, il est doux. Hein. Mais il est doux pour celui qui l'accueille, qui l'accepte. Si on se rebelle contre la volonté de Dieu, ça devient, si on commence à lutter contre un joug qu'on a, ça devient très mauvais. En revanche, il faut absolument, parce que sinon on a le joug du monde, hein, on a toujours un joug, on marche toujours avec quelqu'un. Soit on marche avec le monde, soit on marche avec Dieu. Il n'y a pas tellement de moitié-moitié, hein. Alors, dans certains cas, on peut se dire, pour telle chose, je marche avec le Seigneur. Pour telle autre chose, il y a encore beaucoup de choses à arranger pour que je marche avec le Seigneur. Mais quand on marche avec le Seigneur sur un point, on marche avec le Seigneur sur un point. Vous voyez? Et après, les autres points, il faut être patient avec nous-mêmes aussi. On ne va pas devenir saint du jour au lendemain. Hein, c'est un long travail. On a beaucoup de choses qui ont besoin d'être éclairées en nous parce que nous sommes très aveugles. Hein. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi que le don de piété doit nous rapprocher des autres. Et ça, c'est peut-être pas une chose évidente pour certains. Il y en a qui auraient, vous savez, le désir d'être dans un monastère, bien tranquille, bien peinard, quelle personne qui t'embête, hein, tu peux prier ton Seigneur et puis il n'y a personne qui parle.
Bon, c'est sans, pas aller, sans aller dans le monastère, il y en a qui s'enferment chez eux. Et cette dimension de s'isoler dans son petit confort, pour le dire autrement.
Voilà, ceci étant, dans les monastères, c'est pas si facile que ça. Hein, parce qu'il y en a toujours un qui vous énerve. Et ça ne s'arrange pas avec les années. Bon, donc voilà. Donc vous voyez, c'est-à-dire que une véritable piété doit nous donner d'aimer les autres, d'être proche de l'autre. Hein, donc ne nous sépare en aucun cas.
Je vais donner une petite lumière par rapport à ce que Marie-Christine a dit au niveau du monde. Elle l'avait déjà dit tout à l'heure. Certains le savent, mais pas tout le monde. Quand on parle du monde, soit on suit le monde, on obéit au monde, soit on obéit à Dieu. Le monde, c'est un terme qui est utilisé par saint Jean et qui veut dire le monde sans Dieu, c'est-à-dire l'esprit mauvais, l'esprit du mal. Obéir au monde, c'est obéir à l'esprit du mal qui habite dans le monde des hommes qui ne vivent pas avec Dieu. Hein, pour être bien clair, hein, voilà. Troisième don, la science, ou appelée aussi la connaissance. La science est un don qui permet d'avoir accès à la vérité. C'est pas rien. La vérité, en plus, c'est le Christ, n'est-ce pas ? Je suis la vérité. Donc, la science est un don qui permet d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu. Hein ? Évidemment. Et de combattre le mal. Hein, voilà. Parce qu'on a identifié, encore une fois, le bien et le mal, ce discernement. La science, ou la connaissance, vous voyez, permet que les ténèbres se dissipent dans nos cœurs. Hein. C'est la vérité, parce que la vérité est lumineuse. Vous voyez. Tout ce qui est ténèbres en moi, et notamment la part de tristesse, voyez, qui est liée la plupart du temps à nos péchés. On a l'impression que notre tristesse vient des autres, de ce mal que les autres nous font. La part la plus grande de notre tristesse vient toujours de nos péchés. Voyez. Et donc, le don de science, par la dimension lumineuse de la vérité, vient chasser les ténèbres, voyez, en révélant la présence du mal dans notre vie, afin de la chasser. Voyez. C'est ainsi. Bon. Et puis aussi, oui, le mal, notamment l'erreur, vous voyez, il y a le péché, mais il y a aussi l'erreur. Et donc, ça permet d'éviter, l'erreur, c'est le fruit de l'ignorance, vous voyez. Donc là, nous sommes ici pour nous former. Toute la formation chrétienne permet de grandir dans la connaissance de Dieu pour chasser l'ignorance et donc les erreurs. On peut se faire beaucoup de mal aussi, rien qu'avec des erreurs, vous voyez. Et le contraire de la vérité, c'est d'abord l'erreur, pas le mensonge. Le mensonge, c'est un type particulier d'erreur, c'est l'erreur que j'ai faite, que j'ai reconnue comme étant quelque chose de mal, et l'erreur, c'est le mal que je fais sans en avoir conscience, sans savoir que c'est mal. Je casse un vase en shootant dedans sans l'avoir vu, c'est une erreur. Voilà. Et si on remet un vase après, juste après, voilà, et que je recommence à le faire tomber, là, ça reste de putain une erreur. Je sais qu'il y a un vase. Et donc là, c'est une faute. Si je sais qu'il y a un vase et je le fais tomber, il y a une connaissance, il y a une part de volonté, voilà, et donc du coup, on est dans la faute. Mais la lumière de l'Esprit Saint, la science de Dieu, permet aussi de, vous voyez, de révéler ce qui est faux. Et vrai, faux.
Voilà, alors maintenant le don de force. Alors, je ne sais pas si vous avez si vous vivez de nombreuses tentations, hein, mais c'est la force de l'Esprit-Saint qui nous donne de vaincre les tentations. Alors, les tentations, plus on est loin de Dieu, moins on a de tentations. Hein, parce que quand on fait de toute façon la volonté du malin, le malin, il ne s'occupe même pas de nous donner des tentations. On fait sa volonté, c'est sans problème. Plus on cherche Dieu, et plus on a des tentations, hein, parce que nous restons cette matière pécheresse, hein, que même si on a été purifié par le baptême, il y a cette concupiscence qui reste en nous et qui fait que nous avons toujours, toujours, que nous.
Aidez-la.
Il faut l'aider.
Aidez-la.
Voilà. Oui, je disais donc. Plus on cherche le Seigneur, et finalement, plus nous voyons, plus nous avons de tentations, d'une certaine manière, vous voyez. Or, c'est quand nous avons une tentation, si on se dit, il ne faut pas rentrer dans la tentation, en se disant, discuter avec la tentation, vous voyez. Hein, je prends l'exemple tout bête d'un éclair au chocolat. Hein, ben, si vous dites, bon, le Seigneur ne veut pas que je le prenne, c'est un exemple complètement idiot, hein. Mais je ne dois pas le prendre et on n'y pense plus, c'est facile. Mais si on commence à rentrer en discussion, hein, eh bien on est foutu. Parce qu'on se dira, oui, mais d'accord, j'ai si, oui, mais quand même, hein, on met un petit bout, puis un demi, puis voilà, puis finalement, tout l'éclair finit par y passer. Donc, ce qui est important, c'est de voir que dès qu'on sent qu'il y a une tentation, il faut immédiatement appeler l'Esprit Saint à notre secours, en lui disant, viens Esprit Saint, viens m'aider à ne pas rentrer dans cette tentation. Parce que rentrer dans la tentation, c'est déjà, plus on rentre dedans, plus c'est difficile de ne pas y succomber. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, le don de force nous aide à souffrir généreusement les tribulations de la vie. Alors, les tribulations de la vie, il n'y a aucune vie qui soit lisse. Hein. On a tous. Alors, il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Hein. Il y a des temps qui sont plus faciles. On peut vivre des périodes plus tranquilles et plus faciles. Et puis, il y a des périodes qui sont beaucoup plus difficiles. Hein. Mais les tribulations, ça fait partie de la vie. Une vie sans tribulation, ce serait quelque part pas une vie. Eh bien. C'est important lorsque nous avons des tribulations, mais même les contrariétés rentrent dans les tribulations également. Hein, eh bien, si nous les vivons avec l'Esprit Saint, nous pouvons les accueillir généreusement d'une certaine manière. Vous voyez, ça nous fait moins souffrir quand on est avec l'Esprit Saint, parce qu'on se dit, si Dieu le permet, c'est bon. Hein, mais si on est... Si jamais on est dedans très très fort, si on n'a pas appelé, c'est pareil, c'est toujours au début. Hein, dès qu'on commence à rentrer dans ce type de tentation, de tribulation et tout ça, alors il y en a qui nous viennent de l'extérieur. Hein, mais certains sont très affectés par ce temps de confinement que nous vivons. Hein, alors on n'est plus dans le confinement, mais on est dans le truc le soir, c'est pas mieux, hein. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, je pense qu'il y a un rôle des chrétiens à témoigner, hein, que peut-être que ce confinement nous appelle à une intériorité plus grande. Et pour ça, nous avons besoin de demander la force de l'Esprit-Saint pour pouvoir en témoigner. Vous voyez, parce que c'est une tribulation. Beaucoup de personnes, j'ai entendu qu'il y a 20% des personnes qui sont dépressives à cause de ce truc-là. Hein? Mais donc c'est important, vous voyez, c'est une tribulation qui touche beaucoup de personnes, mais c'est important aussi que le chrétien, avec l'aide de l'Esprit Saint, hein, puisse éclairer les personnes. Nous sommes tellement dans la superficialité, dans la vitesse et dans tout ça, que peut-être que c'est quelque chose à travers un événement à travers lequel le Seigneur nous parle pour nous inviter à plus d'intériorité. De même que pour Noël, on sera moins nombreux, etc. Mais peut-être qu'on en a fait quelque chose où finalement le Seigneur, c'est un prétexte. Hein? Donc de revenir à l'essentiel, hein? À ce don que le Seigneur nous fait de lui-même. Voilà. Et puis le don de force et le soutien dans le combat spirituel, c'est un peu la même chose que les tentations, hein, parce que le combat spirituel, bon, voilà. Et l'accomplissement du devoir d'État. C'est pas toujours facile de faire son devoir d'État. Hein? Et puis parfois on est en train de se dit, oh ben si jamais j'essaye de servir le Seigneur, mon devoir d'État c'est moins important. Mais le devoir d'État il est premier. On ne peut jamais renoncer à son devoir d'État pour dire ah ben, je ne fais pas mon devoir d'État parce que moi, c'est important que j'aille dire mon chapelet. Ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, donc le devoir d'État, il est premier parce que si on ne le fait pas, bon. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous donne cette force d'accomplir notre devoir d'État.
Cinquième don, le conseil. Le conseil nous permet de discerner ce qu'il faut faire pour correspondre à la volonté de Dieu. Cette correspondance. Et donc, pour désirer le don de conseil, le demander, il faut déjà commencer par reconnaître eh bien que il nous manque de correspondre à la volonté de Dieu. Si je suis convaincu que tout ce que je fais correspond à la volonté de Dieu, alors je ne demanderai jamais le conseil de l'Esprit-Saint. Ouais. Et donc il y a ce chemin d'humilité qui consiste à reconnaître en quoi, qu'est-ce qui dans ma vie ne correspond pas encore suffisamment à la volonté de Dieu. Hein? Et pour le découvrir, demander justement la lumière de l'Esprit-Saint. Hein? Éclaire-moi, conseille-moi pour reconnaître ce qui n'est pas, ne correspond pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour correspondre davantage à ta volonté. C'est à la fois, vous voyez, reconnaître le conseil qui permet de reconnaître le creux, qu'est-ce qui est contraire, et puis aussi un conseil qui permet de reconnaître positivement le bien à accomplir, pour ajuster mon cœur au cœur de Dieu. Et donc ça, c'est vrai à la fois pour soi, pour chacun d'entre nous. C'est un don à demander pour nous et un don aussi à demander pour les autres. Vous voyez, cette capacité aussi, dans la responsabilité que nous avons de nous entraîner à la sainteté, et de demander le conseil pour aider mes frères autour de moi. Je peux recevoir la lumière de l'Esprit-Saint par Marie-Christine ou par l'un de vous. Pas parce que je suis prêtre que vous voyez que je peux me passer de mes frères. Et la sainteté est un chemin qui n'est possible que parce que nous nous laissons éclairer par tout ce que Dieu met à notre disposition pour grandir en sainteté.
Ça fait partie de la correction fraternelle, hein, puisque nous sommes un corps. Hein, les chrétiens forment un corps, on n'est pas des petites individualités, nous avons à nous aider les uns les autres pour faire la volonté de Dieu. Donc, quand certaines personnes ont ce don de discerner dans les autres, hein, il y en a qui disent « l'autre il est gentil, il est gentil, il est gentil, il est gentil », ça ne fait pas avancer l'autre et on est dans le mensonge. Mais quand on voit où est le problème chez l'autre, c'est pas agréable du tout d'aller le lui dire, mais en le disant avec charité, ça fait progresser tout le corps entier. Hein, et c'est une mission que certaines personnes peuvent avoir. Et c'est pas facile. Et c'est pas drôle. Bon, alors, donc l'intelligence, c'est pour moi. Bon. Alors, le don d'intelligence nous permet de comprendre de l'intérieur les Écritures. Alors, vous savez, il y a une manière de connaître les Écritures. Il y a des gens, il y a des biblistes qui peuvent ne pas avoir la foi. Ils peuvent connaître la parole de Dieu par cœur, connaître tous les tenants et tous les aboutissants, tous les rapports qu'il y a entre tel texte et tel autre texte, mais ça ne change pas leur vie. Alors, nous avons besoin de l'intelligence, qui n'est pas une intelligence intellectuelle, qui est une intelligence du cœur, qui consiste, lorsque nous lisons la parole de Dieu, à voir ce que la parole de Dieu nous dit de Dieu et ce qu'elle nous dit pour nous, pour notre propre vie, ce que nous avons à faire. Hein, comment la mettre en pratique ? Hein? Le don d'intelligence nous permet aussi de distinguer entre l'erreur et la vérité. Dans certains cas, il y a des choses qui peuvent nous paraître bonnes et qui ne sont pas bonnes. Parce que nous avons une manière de juger, de discerner, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin que l'Esprit Saint, petit à petit, nous forme pour savoir avoir laissé le Seigneur éclairer toutes ces choses-là en nous. Et puis, le don d'intelligence nous permet aussi de reconnaître que Dieu conduit l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si Dieu conduit l'histoire, même cet événement douloureux qui m'arrive, eh bien, le Seigneur s'en sert pour m'amener à une conversion plus grande. Vous voyez ? Donc, ce don d'intelligence, il est très apaisant quelque part. Parce que si je râle à chaque fois qu'il m'arrive une contrariété, parce que c'est pas ce que je veux, eh bien, ça va être difficile ma vie. Mais si je me dis, puisque ça m'arrive, le Seigneur le permet pour ma conversion, pour un plus grand bien, ça permet d'accueillir tout ce qui nous arrive avec une paix réelle. Vous voyez ? Hein ? Et donc, ça nous conduit à avoir une foi authentique. Hein, parce que la foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe. Hein. Croire que Dieu existe, c'est bien joli, mais il y a plein de gens qui le croient sans avoir une vie de foi. Donc, pour entrer dans cette vie de foi, nous avons besoin de reconnaître que Dieu conduit l'histoire. Et puis, le don d'intelligence, puisque c'est Dieu qui conduit l'histoire, que Dieu est infiniment grand, ça nous conduit aussi au don de contemplation, de contempler la grandeur de Dieu, de contempler l'immensité de son amour. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous sommes un petit grain de sable et Dieu est immense. Hein. Mais grâce au don d'intelligence, nous pouvons petit à petit discerner à quel point l'amour de Dieu pour nous est infini. Et combien sa puissance est infinie également. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, grâce au don d'intelligence, on peut vivre beaucoup plus dans la paix.
Septième don, la sagesse. Alors, la sagesse, elle est tellement importante qu'il y a carrément un livre hein, dans la Bible qui lui est consacré, vous savez. Et dans ce livre-là, la tradition a vu... hein, la figure annonciatrice du Christ. La sagesse, on en parle comme d'une personne dans ce livre-là. Vous voyez ? Et c'est pas une erreur. C'est vraiment une volonté de Dieu de se révéler dans la figure de la sagesse. Il y a une identification, vous voyez, entre sagesse et Dieu. Dieu est forcément sage. Et nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance, nous sommes appelés à rechercher cette sagesse. Imiter Dieu en recherchant toujours plus la sagesse. Hein ? Voilà. Parfois, on est peut-être tenté de se dire, la sagesse, c'est bien quand on est gamin et tout, après, il faut un peu de folie, machin, etc. Mais attention, de la sagesse en toute chose.
La sagesse n'empêche pas un peu de folie. Parce oui. qu'il y a une folie à aimer comme le Christ nous a aimés. Mais ça, c'est une folie, la folie de la croix.
Mais pas une folie qui s'autorise à des écarts par rapport à l'amour, à la vérité de l'amour. Ça, je veux dire. Voilà. Et donc, la sagesse, elle consiste à rechercher d'abord le royaume. D'abord. On peut rechercher certains biens. On a besoin de rechercher des biens de cette terre pour vivre. Vous voyez ? De travailler pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir, se loger. Ces biens-là ne sont pas mauvais. Mais tous ces biens-là, ils sont en vue du bien ultime et premier qu'est Dieu. Et donc, tout doit être ordonné à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Rechercher d'abord le royaume, c'est ne pas oublier que notre patrie, c'est le ciel, c'est pas la terre. Et la vie éternelle, c'est pas la terre. C'est pas une copie de la terre sans le mal et le péché. C'est autre chose, on ne sait pas. Et c'est la gloire, on sait que c'est une vie d'amour, de joie, voilà, il n'y a pas de mal, mais c'est pas une reproduction, une copie de la terre, vous voyez, sans le mal et toutes les injustices. Non, c'est pas ça. Et donc nous sommes appelés à désirer par la sagesse toujours plus les biens du ciel, le royaume, désirer Dieu, tout ordonné à Dieu, tout. Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas ordonnées à Dieu. Éclaire-moi, Seigneur.
Et c'est très important de le reconnaître, de demander au Seigneur de discerner.
Et puis, la sagesse, elle permet de goûter, du coup, ici-bas, le bien que Dieu offre. Vous voyez par exemple, quand j'ai mon salaire, parce que j'ai travaillé, ça me permet de... Alors, je peux remercier Dieu pour le salaire que j'ai eu. Bien sûr, j'ai travaillé. Mais le travail que j'ai et que je fais... je ne l'ai aussi que par pure grâce de Dieu. Toute l'énergie que je produis, voilà, elle ne porte du fruit que parce que Dieu accompli, vous voyez, et il donne le coup de pouce qui permet que mon action, vous voyez, porte du fruit. Combien de personnes cherchent du travail, vraiment, et n'en trouvent pas? Combien, vous voyez, etc. Donc, tous les biens matériels de cette terre, voilà, eh bien, ils doivent nous rappeler le bien ultime qu'est Dieu. Je dois avoir un rapport personnel avec chaque bien de cette terre, y compris les personnes de ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, que sais-je, des amis, voyez, qui sont ordonnés vers Dieu. On peut avoir aussi un attachement désordonné aux personnes humaines sur cette terre. Voyez. Une femme, pour un mari, c'est pas son Dieu, ou vice-versa. Voyez. Je ne suis pas sauvé par mon mari, ou par ma femme, ou par mes parents,
ou par
mes enfants, que sais-je. Non, Dieu seul sauve. Tout doit être ordonné toujours plus vers Dieu. Voilà la sagesse. Et donc, elle nous apprend à aimer Dieu, et, puisqu'il est le bien ultime, hein, toujours plus, en faisant, évidemment, sa volonté. Ça, c'est un peu, vous le savez, vous en rendez compte, le fond de commerce de la vie chrétienne. Hein, dans tous les dons, on a parlé à chaque fois quasiment de cette volonté de Dieu. Hein, rechercher ce que Dieu veut. Parce que nous sommes trompés par l'ennemi sur la vérité du bien et du bonheur. L'ennemi se présente sous l'apparence de biens qui n'en sont pas. Et c'est pour ça que les dons de l'Esprit Saint sont indispensables. Sans eux, nous sommes trompés. Et nous nous laissons tromper. Et nous avons une complicité avec le fait de nous laisser tromper, parce que ça fait quand même pas de mal de se manger un éclair au chocolat pour reprendre les
oui grains, c'est pas grave ça,
alors qu'on en a déjà mangé deux avant, bien sûr. Voilà. Bon, je caricature, mais vous comprenez. Voilà.
Mais je crois que justement faire la volonté de Dieu, c'est vraiment ce qui nous permet de discerner si on a un peu d'amour pour Dieu ou pas, hein, parce que souvent on met le curseur ailleurs. On se dit, puisque je prie tous les matins, tant de temps que je vais tous les jours à la messe, que je fais ci, que je fais ci, que je fais ça, j'aime Dieu. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui nous indique, est-ce que je cherche toujours à faire la volonté de Dieu au lieu de la mienne.
Et donc, si nous cultivons, vous voyez, ces dons se cultivent. Ce sont, on a dit, des dispositions permanentes. Mais ces dispositions permanentes, ce n'est pas, encore une fois, magique, automatique. Vous voyez, Dieu donne. Est-ce que Dieu donne? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le reçois? C'est comme la parabole des talents. Est-ce que je les fais fructifier? Vous voyez? Donc, si je cultive ces dons que Dieu me donne, vous voyez, avec soin, avec attention, vous voyez, avec un grand désir, et ces dons que nous recevons à la confirmation, d'accord? Ces dons-là, nous les recevons à la confirmation, eh bien, si nous les cultivons avec soin, alors nous allons pouvoir recueillir les fruits de ces dons. Les dons de l'Esprit Saint et maintenant les fruits de l'Esprit Saint. D'accord ? Cultiver les dons permet de récolter les fruits. Alors, on ne va pas être aussi long sur les fruits, voilà, parce que l'heure tourne.
Ah oui,
donc, il y a historiquement huit fruits.
Historiquement, il y en a 12 annoncés. Et Saint-Paul n'en donne que 8.
Voilà, enfin Saint Paul, voilà, en décrit 8.
Mais dans
voilà.
L'Église, on dit qu'il y en a 12.
Voilà, et on commence par l'Écriture. C'est pour ça qu'on commence par 8, si vous permettez, ma bonne dame. Et donc, les 8 dons de l'Esprit Saint décrits par Saint Paul, charité, joie, paix, patience, bonté, bénignité, un synonyme, ça serait la bienveillance, vous voyez. Voilà, je pense notamment par rapport, vous voyez, la doctrine de l'Église, les lois de Dieu, les lois de l'Église, notamment à tout ce qui touche, voyez, à la morale sexuelle et familiale, des choses qui parfois semblent difficiles à vivre et qui semblent aller à l'encontre de notre bonheur. Eh bien, nous sommes appelés, lorsque quelque chose de la loi de Dieu ou de l'Église nous heurte, nous dérange, plutôt que de dire l'Église ou Dieu se trompe, c'est pour dire c'est moi qui n'ai pas bien compris là où se trouve le bien dans ce qui m'est demandé de vivre. Voilà l'esprit de bienveillance et de bénignité. D'accord ? Bien se rappeler que c'est Dieu qui est dans le vrai, dans le bon, absolument, et beaucoup plus que moi. Voyez ? Et cette bienveillance, elle est liée forcément aussi à l'humilité, du coup. Bien. Je ferme la parenthèse. La fidélité, hein, c'est pas le moindre des fruits, hein, la fidélité à Dieu, la fidélité à ma parole. J'ai dit que j'allais faire ceci. Est-ce que je vais le faire vraiment? Ou est-ce que je vais, voyez, je vais oublier et je vais négliger la parole que j'ai donnée? Et on est dans un monde qui étant toujours plus sans Dieu et toujours plus infidèle à la parole qu'il donne. Les hommes sont toujours plus infidèles à la parole qu'ils donnent. Et plus ça va, moins les gens sont gênés par le fait d'avoir manqué à la parole qu'ils ont donnée. Et ils vont pas s'excuser, ils vont pas demander pardon, toujours moins. Et l'esprit d'erreur et de mensonge se répand toujours plus dans un monde sans Dieu. C'est inévitable. Il faut pas désespérer. Voilà. Ensuite, vous voyez, la douceur, mais pas qu'elle n'est pas une mièvrerie, vous voyez, qui n'est pas détachée d'une force, la douceur, vous voyez, voilà, elle est liée elle est liée à, comment je dirais, la douceur. Elle est liée
à l'accueil de l'autre tel qu'il est, tout en étant dans la vérité par rapport à lui.
Au refus de juger, voyez, la douceur, elle est liée au refus de juger la personne. C'est ça la douceur.
Alors attention,
c'est
parce
de juger avec de, c'est le contraire de la dureté,
de condamner, parce que voilà. Nous avons à discerner. Parce
non mais oui, mais on peut, j'ai dit, refuser de juger la personne. Oui. On peut juger les choses, mais pas les personnes.
Oui.
Et c'est ça que je voulais dire, et c'est très important. Voilà. Et donc ça revient à condamner, en effet, on est d'accord. Voilà. Et vous voyez, donc cette douceur et cette maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Ah mon père, j'entends ça en confession sans arrêt. Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tel mal, mais je pouvais pas faire autrement. Ouais. Comme si je n'étais pas capable de, c'est impossible de me maîtriser. Eh bien non. Ça, ce sont les animaux. Les animaux, ils n'ont pas de maîtrise d'eux-mêmes. Ils ont que des instincts. Mais l'homme est un animal raisonnable. Et donc, il reçoit de Dieu une capacité d'être maître de ses instincts, quels qu'ils soient. De violence, les instincts affectifs, sexuels, peu importe. Voyez. Tout ce qui vient en moi que je n'ai pas choisi, parce que je ne choisis pas d'avoir certains instincts, Dieu me donne la capacité de le maîtriser.
Par son Esprit Saint.
Par son Esprit Saint. Et après, se sont ajoutés en effet trois autres dons dans l'histoire de l'Église. La modestie, voyez, qui n'est pas très loin de l'humilité, je trouve, moi. Voilà, la chasteté, la chasteté qui est liée au contraire de la... qui est une dimension mesurée du rapport à tous les biens. Vous voyez, la chasteté, c'est un rapport d'appétit mesuré par rapport à tous les biens. Hein. La chasteté, ça ne concerne pas que le domaine de la sexualité. Il peut y avoir une manière de parler qui est chaste. Voyez. La gourmandise manifeste un manque de chasteté. Et cette gloutonnerie, un rapport désordonné par rapport au bien. Hein, voilà. Et puis la continence, là pour le coup, c'est explicitement lié à la relation homme-femme essentiellement. Voilà. Et donc c'est l'absence de relation charnelle en vue d'un bien plus grand. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Mais en tout cas, toutes les personnes célibataires sont appelées à la continence. Et, que ce soit avant le mariage, après le mariage, ou parce qu'on n'est pas marié, pour les personnes qui restent célibataires. Que ce soit un célibataire voulu ou un célibataire non voulu. Ce qui est plus difficile pour les personnes qui vivent un célibat qui n'est pas choisi. Elles sont appelées à vivre cette continence. Mais voilà, tout ce que Dieu nous demande, il nous donne la capacité de le vivre. Seigneur, sauve-moi pour vivre ce à quoi tu m'appelles. Compléter. De plus, chez ceux qui le reçoivent, l'Esprit Saint purifie du péché. Purifie du péché. Il affermit notre espérance aussi. Et notre espérance en quoi? En la vie éternelle. En ce bien ultime qu'est Dieu et cette communion de vie et d'amour avec lui. Et l'Esprit Saint, il nous aide, il nous pousse à garder les commandements parce qu'il nous fait aimer Dieu. Garder les commandements, ça n'est qu'en vue de l'amour. Et garder les commandements parce que je veux davantage aimer Dieu.
Et c'est forcément l'Esprit Saint qui est amour, qui nous donne d'aimer. Parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un de lointain. Hein? Alors, dans certains cas, très rarement, on peut avoir une rencontre plus personnelle avec Dieu. Mais il faut vraiment que ce soit l'Esprit Saint qui mette dans notre cœur cet amour pour Dieu. Parce que comment aimer, nous qui sommes si petits, aimer quelqu'un qui est si grand? Hein? Il se me fait proche de nous, mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir goûter cet amour de Dieu. Sinon, nous ne le sentirions pas. Sans l'Esprit Saint, nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint pour le sentir.
Saint Paul, dans la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. » Il n'est N'E T, pas du verbe naître. S'il n'est pas, voilà, avec l'Esprit Saint. Vous voyez, Jésus est Seigneur. C'est le cri de Saint Thomas. Vous voyez, mon Seigneur et mon Dieu, cette reconnaissance de la divinité de Jésus. Vous voyez, on ne peut pas reconnaître que Jésus n'est pas simplement un grand homme, voilà, comme le disent nos frères musulmans, par exemple, un prophète, vous voyez, pour eux, mais qu'il est Dieu. Nous ne pouvons pas le dire sans que l'Esprit Saint nous ait visité et que nous l'ayons accueilli. Et cette disponibilité du cœur pour accueillir celui qui vient nous rendre visite. Et pour être en lien avec le Christ, il faut donc d'abord avoir été touché par cet Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est à l'œuvre, vous voyez, il chôme pas, comme on dit, pour dire autrement, il est à l'œuvre avec le Père et le Fils. Et il n'œuvre jamais tout seul. Jamais une des personnes divines n'agit seule. Vous voyez, détachée, décalée des autres personnes. Il y a toujours une unité de l'action des personnes divines ensemble. Et l'Esprit, donc, il œuvre avec le Père et le Fils. Depuis quand? Depuis le commencement, voyez, du monde qui a été créé par lui. Hein, il planait sur les eaux, dit le livre de la Genèse. Et puis, et ceci jusqu'à la fin des temps. Il œuvre non-stop, hein, une permanence de son action, voilà, dans le monde. Et puis, mais en revanche, c'est au dernier temps, qui ont commencé avec la venue de Jésus sur terre, au dernier temps, ils ont inauguré avec l'incarnation de Jésus, hein, voilà, que l'Esprit Saint est révélé. Il agit tout le temps. Mais avec la venue de Jésus, il nous est révélé et donné, vous voyez, d'une manière vraiment plus tangible, si je dirais, sensible. Hein, voilà. Et du coup, il peut être reconnu et accueilli comme une personne à partir de la venue de Jésus sur notre terre, il y a 2000 ans.
Alors qu'il était là à la création, hein, puisque l'Esprit était là au-dessus des eaux, donc voilà. Il fallait plus personne.
Alors, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, mais un peu avant, au chapitre 2, verset 11. « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Ouais. » On ne peut pas accéder à Dieu, le Père, le Fils, et à tout ce qu'est Dieu, sans l'Esprit Saint. Il y a une dimension indispensable de la présence et de l'appel, du coup, aussi pour nous, à l'Esprit Saint, pour pouvoir connaître Dieu. Hein. L'Esprit Saint a été un peu le parent pauvre dans la vie chrétienne pendant des décennies. Hein,
et des siècles même.
Et des siècles, voilà. Ouais. Voilà. On l'a redécouvert au XXe siècle. Hein, mais ce n'est pas fini.
Voilà. Oui, parce qu'on disait, l'Esprit Saint, c'est pour les protestants. Voilà.
Et donc, l'Esprit de vérité nous dévoile le Christ, mais il ne nous parle pas de lui-même. Il est discret, l'Esprit Saint. Et il s'efface. Et c'est pour ça qu'il est le parent pauvre. Parce que dans son humilité, eh bien, on l'oublie. Et donc, il faut le suivre pour le reconnaître. Il faut le suivre, le chercher pour le reconnaître. Et ça, vous pourrez aller le voir. Nous vous invitons à aller voir vous-même dans la référence suivante, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 17 et suivant. cette dimension de l'Esprit Saint. Voilà. Alors un autre point important, c'est le rapport à l'Église. Et l'Église, elle est notre lieu de connaissance de l'Esprit Saint. Et ça, c'est essentiel, vous voyez, cette dimension de la vie de l'Esprit Saint grâce à l'Église. Alors, comment est-ce qu'on va avoir cette connaissance de l'Esprit Saint par l'Église ? Dans les Écritures. Parce que les Écritures, elles ont été établies par l'Église de manière solide, certaine. C'est elle qui a déterminé ça, tel texte ou tel autre. C'est vraiment la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est grâce à l'Esprit Saint que nous accédons à l'Esprit Saint dans les Écritures. C'est aussi dans la tradition et ce qu'on appelle le magistère. Voyez, mais c'est tous les textes des papes et des conciles depuis Jésus jusqu'à maintenant. Voyez, depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à maintenant. Et donc l'Église, elle a une réflexion, une méditation de la parole de Dieu, des Écritures plus exactement, et cela lui donne de recevoir des lumières complémentaires aux Écritures, et ces lumières-là, dans la foi catholique, nous les appelons même parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas que les Écritures, ce n'est pas que la Bible. La parole de Dieu, c'est les Écritures et la tradition, avec cette dimension du magistère. La tradition, c'est un peu tous les écrits des grands saints, et le magistère, c'est plus étroitement les écrits des pères de l'Église et des papes, et puis un peu des évêques. D'accord ? Voilà. Ensuite, cet Esprit Saint, nous le recevons par l'Église dans la liturgie, des sacrements, évidemment, c'est évident. Hein ? Ce Dieu se donne dans tous les sacrements, et Dieu, Trinité, donc l'Esprit Saint. Nous recevons l'Esprit Saint dans la prière de l'Église, vous voyez ? En dehors même des sacrements. L'Église a choisi, a rédigé des prières. Celle que nous avons priée tout à l'heure, vous voyez, « Viens Esprit Saint », nous la recevons de l'Église. Hein? Voilà. Et dans la prière où l'Esprit Saint intercède pour nous, il prie pour nous, hein? Et nous l'appelons à prier pour nous.
C'est vraiment important, lorsque nous prions, de ne pas nous fermer sur nous-mêmes, hein? Mais de toujours appeler l'Esprit Saint d'abord, hein, pour que, parce qu'il y a toujours ce risque de se faire dans un espèce de petit cocon, je me ferme sur moi, puis je raconte ma petite salade au Seigneur, et voilà. Non, mais ce qui est important, c'est de voir que notre prière, hein, on a besoin d'accueillir l'Esprit Saint, parce que lui, c'est pas lui qui va s'imposer. Hein. Donc nous avons à lui demander sa présence pour pouvoir discerner, parce que si la prière est un monologue où je raconte toutes mes salades au Seigneur, ça va pas être une prière. Hein. La prière, elle est un dialogue où je dois recevoir ce que le Seigneur a à me dire, ce qu'il a à éclairer de moi, hein, comment il veut me montrer sa volonté. Et tout ça, c'est par l'Esprit Saint que ça passe. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement important de, peut-être qu'on a tous à se poser des questions sur la manière dont nous prions. Hein. Parce que notre prière est, parfois, on peut prier que sans son petit ronron, voilà. Je prie, mais en fait, je m'auto-contemple. C'est en adressant mon auto-contemplation à Dieu. Mais ça peut être un peu ça, voilà.
L'Église est aussi notre lieu de connaissance de l'Esprit Saint dans les signes de la vie apostolique et missionnaire. Alors, c'est quoi les signes de la vie apostolique et missionnaire ? Ce sont ce que nous découvrons de l'action de l'Esprit Saint dans la vie des apôtres. Mais pas simplement les apôtres de l'Évangile, les apôtres que nous sommes, les apôtres qui sont auprès de nous, vous voyez, tous ceux qui sont envoyés par Dieu, et de nous voyons l'œuvre merveilleuse de l'Esprit dans le cœur des personnes qu'il rencontre, vous voyez, ou que nous rencontrons aussi. Vous voyez, nous sommes témoins nous-mêmes de cette présence de l'Esprit Saint lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, lorsque nous annonçons l'Évangile. Hein. Et puis ensuite, nous avons cette connaissance de l'Esprit Saint dans les charismes, hein. Les charismes que l'Esprit Saint donne pour le service de l'Église, hein,
et les dons,
voilà, des dons, voilà, mais des dons au, c'est pas des dons pour moi, des dons au service de l'Église.
Quelqu'un
voilà.
Peut avoir un charisme pour un certain temps, et puis après le charisme part.
Voilà, hein.
C'est un don pour une mission.
C'est pas un don permanent, pour le dire autrement.
Voilà,
voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, une disposition permanente.
Non, c'est un don pour un service.
Voilà. Donc, dans les charismes et les ministères, ce sont les services. Et, c'est-à-dire que si on vous demande d'avoir un service dans la paroisse, voyez, eh bien ici, ce service, vous allez le vivre avec l'Esprit Saint. Et si vous vivez vraiment à cœur l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu dans votre cœur, votre service, vous allez voir l'œuvre de l'Esprit, voyez, à travers votre, le service que vous accomplissez. Voyez, on peut le voir aussi dans le service que d'autres accomplissent, c'est pareil, dans le mien, dans celui des autres. Voilà. Et puis ensuite, l'Esprit Saint, nous en avons connaissance dans le témoignage des saints. Voilà, où, évidemment, l'Esprit manifeste sa sainteté. Voyez, la dimension lumineuse, la dimension, vous voyez, qui est source d'émerveillement. Il y a des personnes que le Seigneur touche de telle sorte que, eh bien, lorsque nous les rencontrons, nous sommes profondément édifiés par ces personnes. Voyez, nous voyons Dieu à l'œuvre, vraiment d'une manière extrêmement grande. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu.
Parce que la sainteté n'est jamais que la sainteté de Dieu qui vient habiter dans un homme. Hein? Mais l'homme, il n'est pas ça par lui-même. C'est juste, plus un homme se laisse habiter et façonner par Dieu, plus il devient saint. Mais c'est la sainteté de Dieu qu'on admire. Hein? Et l'homme, lui, plus il se fait, plus il est humble, plus il est petit, plus il peut laisser le Seigneur agir à travers lui.
Alors, dans un...
Alors, juste un truc. Ça fait une heure que nous donnons l'enseignement. Alors, on est page 2 sur 5, hein? D'accord? Alors, je pense qu'on n'arrivera pas à faire les 5 pages, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes déjà fatigué ou est-ce que vous voulez qu'on continue?
On peut continuer?
On peut continuer? Personne n'a la tête qui explose.
Bien.
Ça va?
Alors, un point important maintenant, la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Mission conjointe, vous voyez, ensemble, du Fils et de l'Esprit. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, donc l'Esprit de son Fils. Et ça, on peut le voir dans Galates au chapitre 4, verset 6. Donc l'Esprit Saint que le Père envoie, vous voyez, l'Esprit de son Fils, il est réellement Dieu. Il ne faut pas l'oublier, on l'a dit, mais je le rappelle. Et il est, on va utiliser un mot un peu technique, mais c'est important de passer par là, il est l'Esprit Saint consubstantiel au Père et au Fils. Consubstantiel, ça veut dire avec la même substance. Et, voilà. Le Père a une substance, le Fils a une substance, l'Esprit Saint aussi, et la substance de chacun, c'est la même. C'est celle de l'amour. Alors, ce sont tous les trois des esprits. Et, alors, il y a un esprit, le Fils est un esprit, et de toute éternité jusqu'à l'incarnation, oui, où l'Esprit s'incarne, l'Esprit du Fils s'incarne, n'est-ce pas? Oui. Où le Fils, qui est pur esprit aussi, de toute éternité jusqu'à l'incarnation, devient un être humain. Mais il y a la même substance entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais tout ça, ce sont des termes qui nous permettent, le but de ce vocabulaire est de nous aider à croire que l'Esprit Saint est Dieu autant que le Fils et que le Père. Si on veut faire les choses, dire les choses simplement, c'est ça, vous voyez? Et en même temps, nous ne croyons pas en trois dieux, en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous voyez? Ah, trois en un. Pour reprendre un petit mot bien connu dans la publicité. Voilà.
Attends, moi je dis pas.
Je t'expliquerai après. Voilà.
Non, mais pour la télévision, c'est peut-être ça. Donc.
Voilà, oui.
Ça doit être ça.
Voilà.
Mais, je cherche une excuse.
Donc, l'Esprit Saint, il est consubstantiel au Père et au Fils, et il est inséparable. Vous voyez, encore une fois, on ne peut jamais séparer l'Esprit Saint des deux autres personnes. Il n'y a pas de séparation entre eux. Voilà.
Parce qu'il y a une chose qui est difficile, c'est que si, mettons, c'est comme un ménage qui n'a pas d'enfant, il a besoin d'avoir un fruit. L'amour donne forcément un fruit. Donc, c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas, des ménages qui n'ont pas d'enfants, souvent ils en adoptent, ou alors ils ont d'autres activités, parce que 1 plus 1, ça devient fermé. Vous voyez, ça ne donne pas de fruit. Or, le fruit est la manifestation de l'amour entre deux personnes. Donc, a fortiori, de Dieu. Donc, c'est pour ça. Et puis, vous avez déjà fait tenir, vous, une chaise sur deux pieds seulement? Ça tient pas. Donc, il faut un troisième pied pour que ça tienne. Voilà.
Et donc, l'Esprit-Saint est inséparable du Père et du Fils, tant dans la vie intime de la Trinité, de Dieu-Trinité, mais aussi dans son action dans le monde. Vous voyez ? En Dieu, il n'y a pas de séparation entre les trois personnes, mais même quand l'Esprit-Saint agit et qu'on considère son action personnelle, son action n'est jamais détachée, séparée de l'action du Fils et de l'Esprit-Saint. D'accord ? Il nous faut toujours, 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 même si on distingue les choses, les ramener à leur unité, à leur communion. D'accord ? Ça, c'est important, c'est essentiel. Il y a une tentation très grande. Vous voyez ? Quand l'esprit humain, pour comprendre les choses, il distingue les choses. Pour comprendre, on analyse. Pour analyser, on distingue les choses. Mais quand on a fait le travail de distinction, vous voyez, pour reconnaître ce qui est propre à chacun, eh bien, nous avons du mal ensuite à retrouver le chemin inverse de rassembler les choses dans la communion. Et notre esprit a tendance, il y a des nuances selon les personnes, mais de manière générale, les hommes ont tendance ensuite à séparer ce qui est distinct. Vous voyez, distinct, il n'y a pas de séparation. Il y a quelque chose qui est propre, mais il y a des liens ensemble. Dans la distinction, il n'y a pas de séparation. C'est un vocabulaire très précis. Voilà. Et alors, en adorant la Trinité Sainte, vous voyez, unie dans sa communion, la foi de l'Église, donc notre foi, vous voyez, eh bien, nous professons aussi la distinction. Il faut d'abord considérer l'unité, vous voyez, pour considérer ensuite la distinction. Et quand le Père envoie son Verbe, qui va devenir le Fils, il envoie toujours son souffle avec. Et donc, il y a une mission conjointe où le Fils et l'Esprit-Saint sont distincts, mais inséparables. Et Jésus et l'Esprit-Saint, on ne peut jamais les séparer. Ils sont envoyés par le Père dans le monde, voilà, sur le monde. Il envoie toujours son souffle, oui. Et donc, voilà, c'est Jésus le Christ qui paraît, vous voyez, lui qui est l'image du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui révèle le Fils, qui révèle que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. D'accord ? Vous voyez ?
Il le révèle déjà au baptême du Christ, lorsque l'Esprit-Saint paraît comme une colombe et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc on voit déjà là, c'est important que voir que nous, sans l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas reconnaître le Christ comme personne de la Trinité. C'est vraiment toujours, et l'Esprit-Saint qui est si peu connu, finalement, il a une action fondamentale, parce que sans lui, il y a une telle distance entre Dieu et nous, que sans lui, c'est lui qui rassemble. Et qui nous donne de pouvoir discerner la présence de Dieu en nous, et de désir. C'est lui aussi qui nous donne d'avoir le désir de faire la volonté de Dieu, qui est toujours, quasiment toujours, complètement l'opposé de la nôtre. Eh bien, il faut vraiment que ce soit l'Esprit Saint qui mette ce désir-là dans notre cœur. Vous voyez.
Et alors, l'Esprit Saint dans les sacrements, mais parce que déjà dans la vie de l'histoire sainte, vous voyez, l'Esprit Saint est celui qui donne l'onction. L'onction de l'Esprit Saint, c'est le signe de l'empreinte, vous voyez, comme une empreinte dans le sol qui reste indélébile, vous voyez, l'empreinte indélébile de l'Esprit Saint, vous voyez, dans la personne qui le reçoit. Et Jésus est le Christ, en hébreu le Messie, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire celui-là même qui a reçu l'onction de l'Esprit-Saint par excellence, de manière parfaite. Et donc il y a cette communion entre le Fils et l'Esprit-Saint, de par cette relation et ce mystère de l'onction. Et donc quand le Christ est glorifié, par sa mort, par sa ascension surtout, vous voyez, ensuite, et quand le Christ est glorifié, il peut alors envoyer l'Esprit Saint à tous ceux qui croient en lui. Pourquoi ? Parce que comme il n'est plus sur terre, et il va se donner par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui rend présent le Fils est dans son mystère de la résurrection. Hein?
Dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus parle de son départ, ses apôtres s'attristent, mais il leur dit « Si je ne pars pas, vous ne recevrez pas l'Esprit-Saint. » Hein? C'est pour éclairer un peu ce que le Père vient de dire. C'est-à-dire que c'est comme si, quand le Christ sera monté au ciel, on peut recevoir l'Esprit-Saint qui rendra présent en nous les dons du Christ. Hein? Mais tant que le Christ est sur terre, finalement, l'Esprit-Saint agit d'une manière complètement invisible et effacée.
Et la mission de l'Esprit, elle est aussi une mission d'adoption. C'est-à-dire que nous sommes des fils adoptifs. Il y a le Fils, un seul Fils, et nous, par le baptême, nous recevons la filiation par l'adoption. Cette adoption, elle nous est donnée par l'Esprit-Saint. Vous voyez, l'Esprit d'adoption, hein, sera de nous unir au Christ et de nous faire vivre en lui, vivre de lui, imiter Jésus, mendier son amour, nous laisser sauver par lui, délivrer par son amour. Oui. Voilà. Ce qui n'est pas magique, encore une fois, évidemment, hein, cela implique notre liberté qui s'engage, qui appelle, qui désire, oui, qui reconnaît le besoin d'être sauvé. Alors, deuxième grand point après ce lien étroit entre l'Esprit-Saint et le Fils.
Hein? Ça fait une heure et quart, il faut pas trop chercher.
Non, je sais bien, mais tu voudrais arrêter, toi, maintenant?
Ben, je pense que de toute façon, on ne peut pas tout faire.
Non, je sais bien.
Je pense que ce serait bien, peut-être qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Aucune question, si. Toi, tu as... Non, ne la pose pas tout de suite, hein, c'est juste voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser, toi? C'est tout, deux seulement? Bon, mais je pense que quand les deux auront posé des questions, ça va faire surgir d'autres questions. Non, parce que c'est quelque chose de très fondamental, hein, l'Esprit-Saint. Moi, j'estime qu'au bout d'une heure et quart de topo, ça va. Hein, sinon, on va vous charger, vous aurez...